Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Ouais, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
On a beaucoup de choses ce soir, on ne sait pas comment on va pouvoir tout caser, en tout cas, mais on va essayer jusqu'à 20h. D'abord, Kering qui s'écroule en bourse ce soir avec une chute quasi historique pour le groupe de luxe. On va parler de ça avec Étienne Brack dans un instant. Puis il y a toutes ces réunions ce soir à l'Elysée autour du thème des déficits, Audrey.
Absolument, elles ont déjà commencé ces réunions avec plusieurs ministres pour parler en effet du niveau du déficit public. Il y a un grand dîner tout à l'heure avec notamment les oppositions. Et puis on vous parlera aussi de Jordan Bardella qui a été auditionné aujourd'hui par la CPME avant les européennes. Et cette question, faut-il ramener les délais de paiement de 60 à 30 jours? En tout cas, c'est ce que propose la commission de Bruxelles.
Alors, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça? Deux économistes, Bruno Coquet, Henri Sterdignac et puis Marc Landré, on espère, parce que les transports parisiens sont ainsi faits que...
Il est en chemin.
On n'est plus sûr de rien, mais on espère. Voilà le programme, en tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc, vous allez voir comme quoi tout arrive, même à ceux qu'on croit insubmersibles. L'action Kering a perdu ce soir à la Bourse de Paris quasiment 12%. Bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Guillaume.
C'est pas la plus forte baisse de l'histoire de Kering, mais quand même, c'est significatif. C'est parti d'un profit warning qui a été annoncé hier soir, c'est ça?
Oui, en effet. Et donc, moins 12% ce soir à la clôture, c'est la plus forte baisse depuis mars 2020. Et la pandémie, hein, c'était il y a 4 ans, ça passe très vite. Et donc, un titre qui perd 7 milliards de valorisation boursière ce soir, suite donc à un groupe qui a revu hier à la baisse ses objectifs d'une façon très forte, hein, puisque désormais vous avez un chiffre d'affaires qui est attendu en baisse de 10% pour les trois premiers mois de l'année, suite à une baisse d'environ 20% pour Gucci. Et historiquement, Kering est toujours très dépendant de Gucci. En cause, la nouvelle collection de Sabato De Sarno qui est arrivée tardivement en boutique mi-février. Donc vous avez un groupe qui a perdu plusieurs semaines, notamment en janvier. Et puis dans le même temps, une transition qui est assez lourde avec la précédente collection d'Alessandro Michele qui a été remerciée l'année dernière. Et puis toujours une tendance compliquée en Chine, hein. C'est pas le premier groupe à dire que c'est compliqué. Ouais. La semaine dernière déjà, Tod's, hein, donc acteur italien, disait tout va bien depuis le début de l'année, sauf en Asie. Pernod Ricard, il y a 3 semaines, était très prudent sur le nouvel an chinois, avec une reprise qui se fait toujours attendre, des crises sanitaires, immobilières et puis bien sûr économiques qui continuent de peser sur la consommation. Et donc bien, vous avez un groupe qui pèse à chaque fois un lourd tribut en bourse, hein, puisque vous avez une baisse de quasiment 13% ce soir, alors que Hermès est parfaitement stable. LVMH perd 1,5%. Et rendez-vous compte aujourd'hui, Kering pèse moins de 2% en termes de pondération dans le CAC 40. Donc heureusement pour l'indice parisien, la baisse de Kering n'entache pas trop la tendance des records haussières du CAC 40 de ces dernières semaines.
Merci beaucoup Étienne, on vous retrouve dans quelques minutes. On parlera de la Fed là, qui est en train de communiquer, qui nous dit qu'elle ne s'attend pas à réduire ses taux avant d'être plus confiante que l'inflation augmentera durablement jusqu'à l'objectif de 2%. Voilà, on va regarder ce que nous dit la Fed et puis vous nous décrypterez tout ça dans quelques instants bien sûr. En direct, dans l'actualité ce soir, je vous le disais par ailleurs, c'est le branle-balle combat à l'Elysée sur la question des déficits. Emmanuel Macron reçoit en ce moment plusieurs de ses ministres. Il va dîner ce soir avec les chefs de parti et de groupe de la majorité. L'idée, c'est qu'Emmanuel Macron veut reprendre la main là avant une séquence qui va être assez difficile à négocier pour le gouvernement. Thomas Asportas.
Oui, séquence qui commence mardi prochain, le 26 mars, avec la publication par l'INSEE des comptes publics 2023. Ça va être l'heure de vérité parce que ça va être à ce moment-là qu'on va connaître l'ampleur du déficit de l'année écoulée. L'objectif du gouvernement, c'était 4,9%, mais on s'en souvient, c'était il y a 15 jours, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave nous ont dit que ce serait significativement, c'est leur mot, davantage. On sera d'après les économistes entre 5 et 5,5% de déficit pour 2023. Donc ça va être une très mauvaise nouvelle qui va être annoncée mardi prochain. On va être concrètement le seul grand pays de la zone euro avec l'Italie à avoir un déficit supérieur à 5%. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'en partant d'aussi haut en 2023, ça rend très improbable l'objectif de déficit pour cette année, qui est de 4,4%. Ça voudrait dire qu'il faudrait réduire le déficit de quasiment un point en un an, ce que la majorité n'a jamais fait depuis 2017.
Bon, et ça arrive cette séquence au moment où la France va être scrutée vraiment de tous les côtés pour le
moment. Oui, puisque les agences de notation vont toutes rendre leur verdict dans les semaines qui viennent. Fitch et Moody's, c'est le 26 avril, un mois pile après la publication des comptes de l'INSEE. Standard & Poor's, c'est le 31 mai, une grosse semaine avant les élections européennes du 9 juin. Et voyez bien ce que craint le gouvernement. C'est un, et bien que la note de la France soit dégradée par les agences de notation. Elle a échappé belle l'année dernière à deux reprises, mais le risque est encore plus fort cette année avec des comptes qui se sont encore aggravés. Et deux, et bien que la majorité soit sanctionnée aux européennes à cause notamment de la mauvaise gestion des finances publiques. Les oppositions, depuis ce matin, tirent déjà à boulet rouge. Le Rassemblement National parle, je cite, de résultats épouvantables et pitoyables et d'un gouvernement incompétent. La France Insoumise dénonce de piètres économistes et les Républicains disent que la gestion calamiteuse des finances publiques doit être censuré en référence au projet de loi de finances rectificative que le gouvernement envisage pour cet été. Donc les comptes de l'INSEE, j'en finis là, les comptes de l'INSEE le 26 mars, ça va être le coup de feu d'une séquence de plus de deux mois, très compliquée à gérer pour le gouvernement sur les finances publiques, et c'est pour ça que le président veut reprendre la main, en tout cas elle espère, à partir de ce soir.
Voilà, donc ce dîner ce soir à l'Elysée autour des ténors de la majorité, on suivra ça bien sûr sur BFM Business, on en parle avec nos experts dans quelques minutes. 19h06 dans l'actualité ce soir, je vous disais, on voulait vous parler de Jordan Bardella, qui a pris la parole ce matin devant la CPME, comme le front, cela dit, toutes les têtes de liste aux élections européennes de juin prochain. Bonsoir Léo Dumas, vous y étiez. Apparemment il y a eu beaucoup de questions, mais des réponses qui n'étaient pas toujours très précises, Léo.
Il n'y a pas assez de concret, c'est l'avis général, même si évidemment il y a quelques points d'accord. Jordan Bardella en tout cas a essayé de convaincre avec deux propositions presque sur mesure pour la CPME. Écoutez-le d'abord sur la question des seuils qui est très chère à l'organisation.
Nous entendons instaurer un délai de carence de 3 ans pour tout franchissement de seuil par une entreprise. 3 ans pour s'adapter, 3 ans pour empêcher la sanction d'éventuels à-coups économiques et permettre d'accompagner une tendance.
Voilà, problème, répond François Asselin, le patron de la CPME sur la scène. Ce délai existe déjà, il est même de 5 ans depuis la loi Pacte 1. Deuxième proposition de Jordan Bardella, cette fois à destination des PME qui ont des problèmes de recrutement, écoutez-le.
Nous proposons également de permettre, pour redynamiser l'attractivité de ces emplois, aux chefs d'entreprise qui le souhaitent, de procéder à une hausse de 10% des salaires sans cotisation patronale et sans charge sur ces 10% de hausse.
Marine Le Pen avait déjà formulé une proposition à peu près similaire dans son programme présidentiel, mais pour François Asselin, attention, ce remède pourrait alimenter une boucle prix-salaire. Écoutez-le.
Il y a une question de charge, mais l'entreprise ne peut pas distribuer ce qu'elle ne gagne pas. C'est-à-dire que si dès demain, j'augmente tous les salaires de mon entreprise de 10%, si j'ai la possibilité de basculer cela sur mon prix de vente et donc alimenter l'inflation, ben, je le ferai.
Voilà, au-delà de ces deux mesures, Jordan Bardella a déroulé son programme économique, un programme en 3 axes, produire en poursuivant par exemple la baisse des impôts de production engagés par Emmanuel Macron, protéger en donnant notamment la priorité nationale aux entreprises françaises dans les marchés publics, et puis permettre, il s'agit là de simplifier en supprimant plusieurs directives européennes.
Voilà, Jordan Bardella donc ce matin devant les petits patrons, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Les petits patrons justement, il y a un sujet qui les ronge, mais alors quotidiennement, c'est les délais de paiement. Vous savez qu'ils se sont allongés avec la crise. Vous savez aussi que Bruxelles propose de les ramener de 60 à 30 jours partout en Europe, sauf que en France, beaucoup d'experts vous disent ça part d'une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée en fait. Caroline Morisseau.
Le cabinet Altares a mesuré l'impact de la mesure et il alerte. Certaines entreprises vont certes y gagner et récupérer du cash grâce à un paiement plus rapide. C'est le cas de 3 PME sur 5. Selon ses calculs, elles pourraient récupérer au total jusqu'à 14,5 milliards d'euros de liquidités. Mais d'autres entreprises vont au contraire y perdre. C'est le cas des grands groupes qui vont devoir payer plus rapidement leurs fournisseurs et donc aller chercher de nouvelles capacités de financement pour un montant total évalué à 12 milliards d'euros. Enfin, certains secteurs secteurs déjà fragilisés comme la restauration, le commerce de détail risque d'être frappé de plein fouet par cette mesure. Quid d'un commerce de vêtements par exemple qui devra payer ses fournisseurs deux fois plus rapidement sans pour autant réussir à vendre sa marchandise deux fois plus vite. L'ensemble des organisations patronales dénonce depuis plusieurs mois une mesure brutale qui risque de déstabiliser les entreprises et de créer une distorsion de concurrence avec des fournisseurs extra-européens. Un message entendu à Bercy où l'on se bat contre cette mesure.
Caroline Morisseau, dans l'actualité, cette amende infligée par la France à Google, 250 millions d'euros dans le cadre du dossier des droits voisins. Vous savez, c'est la rémunération des médias. L'autorité de la concurrence a jugé que Google n'avait pas respecté certains des accords qu'elle avait passés avec la France sur ce sujet il y a environ deux ans. Joe Biden qui débloque 20 milliards de dollars pour aider Intel à augmenter sa production de semi-conducteurs dans l'Arizona, l'Ohio, l'Oregon, le Nouveau-Mexique. Joe Biden est allé d'ailleurs annoncer lui-même la bonne nouvelle en Arizona qui sera un des états clés de l'élection de novembre prochain, bien sûr. Et puis en France, si ça se trouve, ça ne changera absolument rien, mais comme on dit, c'est l'effet marketing. On a appris aujourd'hui que Orpea allait changer de nom pour s'appeler Emeis. L'idée, on l'a bien compris, c'est de tourner la page des fameux scandales de maltraitance. Hélène Cornet.
Il s'agit de restaurer l'image de l'ancien champion des EHPAD et cliniques privées. Nouveau nom, nouveau logo. Emeis, tout en minuscule, signifie « nous » en grec ancien. L'agence de publicité Jésus et Gabriel a voulu jouer le côté collectif et fédérateur. Une nouvelle identité pour faire oublier le scandale et tourner la page. Les salariés n'en pouvaient plus. Orpea était devenu presque un nom générique pour parler de maltraitance. Changer de nom, c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus simple pour repartir à zéro, selon Jean Watin-Augouard, historien. Rien des marques. Le Crédit Lyonnais et Elf sont passés par là.
Il y avait un problème à la fois de notoriété et surtout pour une entreprise avec une marque de réputation. Ils avaient perdu leur réputation. Là, ils vont devoir, avec la nouvelle marque, créer une nouvelle réputation. Ça, c'est très important. La notoriété, mais surtout la réputation qui permet la pérennité.
Une nouvelle étape donc qui accompagne la restructuration financière du groupe, très fortement endetté. Orpea a été sauvé de la faillite en décembre dernier par la Caisse des dépôts.
Voilà, Orpea qui change de nom pour s'appeler Emeis. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h11, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à Paris, moins 0,48% pour l'indice CAC 40, 8161 points. Et puis alors Wall Street qui est en train de décoller, Étienne, parce qu'apparemment ce que nous a dit la Réserve fédérale américaine fait plaisir aux Américains. Qu'est-ce que nous dit la Fed ce soir, Étienne, en quelques mots?
Alors la Fed, elle nous donne des bonnes et des mauvaises nouvelles. La croissance, elle sera plus forte que prévu. 2,1%, alors que lors de la précédente estimation en décembre, c'était 1,4. Donc vous voyez, l'économie américaine est bien plus solide, mais ça confirme les données d'inflation qu'on a encore eues la semaine dernière. Souvenez-vous, l'inflation qui est ressortie à 3,2 en février contre 3,1 attendu. Pour rappel, l'objectif, c'est 2%. Donc on en est encore loin de ces fameux 2%. Par rapport à cela, depuis plusieurs jours, il y avait un grand débat. Est-ce qu'il y aura une baisse de taux au mois de juin ou pas? Le marché pensait à 60% d'après FedWatch, qui aurait une baisse de taux de 25 points de base en juin. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous avez une Fed qui maintient ses projections de baisse de taux. Ça, c'est surtout ça qui est important ce soir dans la communication et qui plaît au marché. Trois indices américains qui faisaient 0 à 19h et qui, là, sont en train de prendre 0,4 à même 0,5% pour le Nasdaq, l'obligataire qui se détend. Pour rappel, la baisse de taux, la Fed avait laissé sous-entendre qu'il y en aurait 3 lors de sa dernière réunion au mois de décembre. Donc là, elle est toujours droite dans ses bottes. Elle prévoit toujours 3 baisses de taux pour cette année, 3 baisses de taux de 25 points de base, malgré une inflation qui est collante et malgré une croissance qui est plus robuste. Donc au final, le marché est rassuré. Bon. Et donc on verra si elle interviendra ou non au mois de juin. En tout cas, pour l'instant, là, à l'instant, les médias américains et les analystes continuent de penser que ça commencera dès le mois de juin avec une baisse de 25 points de base.
Voilà pour la Fed. On en reparle à 20h tout à l'heure avec vous.
En effet, pendant 5 minutes, on sera avec des analystes afin de décortiquer ces nouvelles.
On parle de ça à 20h. Merci beaucoup Étienne. 19h13, on revient nous avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant pour décrypter tous les grands sujets éco de la journée sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h16 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Ils sont là, ils sont avec nous. Bruno Coquet, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Henri Sterdignac, bonsoir. Membre des économistes atterrés. Alors on va parler et on parle déjà beaucoup de déficit ce soir à l'Élysée. En ce moment, Emmanuel Macron reçoit dans son bureau Bruno Le Maire, mais pas que. Catherine Vautrin, la ministre des Affaires sociales, et Christophe Béchu, chargé des collectivités locales. Il dînera ce soir, figurez-vous, avec les chefs de parti et de groupes parlementaires pour évoquer le sujet.
Pour parler de ces déficits qui s'envolent et des plans d'économie qui s'empilent, 10 milliards de plus cette année, au moins 20 milliards l'an prochain, Emmanuel Macron cherche la synthèse. Ça sera dur. Écoutez ce que disait ce matin Bruno Retailleau, le chef du groupe des Républicains au Sénat, très en verve sur le sujet, forcément.
Qui dépense depuis 7 ans? Qui est à l'origine de plus de 800 milliards d'augmentation de la dette?
Il y a eu le Covid au milieu de ça.
Parlons-en. J'imagine que, comme moi, vous avez lu les rapports de la Cour des comptes. Que disent les rapports de la Cour des comptes? Et qu'il y a moins d'un tiers de cet endettement depuis 2017, qui est consacré vraiment aux crises, et notamment à la crise du Covid. Donc, en réalité, la devise de M. Macron, comme de beaucoup de politiques en France, c'est « je dépense, donc je suis ». Il n'a eu de cesse de ne pas faire de réforme, mais à chaque problème, il y avait des milliards d'euros.
Alors, Emmanuel Macron aurait dit à propos du livre que Bruno Le Maire vient de sortir, il devrait en parler, donc parler de ses propositions et de ses idées pour réduire le déficit de la France, à celui qui est ministre des Finances depuis 7 ans. Ça vous fait sourire, Henri Stadlignac?
Oui, ça me fait sourire, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça. La question, c'est quelles mesures concrètes propose-t-il pour réduire les dépenses publiques? Et si vous lisez le bouquin de Bruno Le Maire, vous trouvez finalement aucune mesure concrète.
Ah, vous l'avez déjà lu, les sorties aujourd'hui?
Vous trouverez, en tout cas, aucune mesure, je lis très vite, vous trouvez aucune mesure concrète qui, effectivement, permet d'être à la hauteur du problème ainsi créé. Hein, mais bon, bien sûr, en France, on a tendance à se comparer avec l'Allemagne, mais si on se comparait avec les États-Unis, on ne dirait pas que notre déficit est faramineux.
Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, là, ces réunions ont lieu à l'Élysée? C'était pas dans l'agenda présidentiel, la rencontre avec plusieurs ministres cet après-midi, dîner avec tous les ténors de la majorité, chef de parti, chef de... Il y a une théorie tout à l'heure, c'est du chevreuil qui disait, il y a peut-être eu un petit coup de fil des agences de notation pour dire attention, parce que là, vous êtes sur une pente plus que savonneuse et nous, on parle dans un mois, deux mois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup, Bruno, finalement? Parce que qu'il y a le feu sur les finances publiques, c'est pas nouveau, ça date pas de ce matin, hein, fondamentalement.
Non, on en parle depuis des mois. Faire passer un budget au 49.3. C'est bien sympathique, mais ça veut dire qu'on discute de rien, ni de la prévision de croissance, ni de des types de dépenses. Et comme il n'y a pas de discussion, du coup, tout ça n'est pas clair. Donc, il y a un moment donné, il fallait que cette heure de vérité arrive. Donc, effectivement, il y a la séquence à venir des agences de notation, etc. Mmh. Mais surtout, il y a le Conseil de printemps demain à Bruxelles.
Oui.
Et donc, dans le Conseil de printemps, c'est quand même une première heure de vérité. Oui, on ne va pas raconter la vie complètement, ni à la Commission, ni à nos voisins. et donc, du coup, on a déjà reculé sur la prévision de croissance, où on est passé de 1,4 à 1, et encore, on sait tous que c'est beaucoup trop optimiste. Même chose sur les dépenses publiques. On est le pays européen qui a le plus augmenté sa dette depuis la fin 2019. Aucun pays n'a augmenté plus en point de PIB.
Oui, on est passé devant l'Italie et la Grèce. Hein.
Oui, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous bien, l'Italie notamment, mais le point c'est que... Donc on a beaucoup augmenté notre dette, plus que tous les autres. D'autres, il y a 6 pays européens qui l'ont rebaissé par rapport à ce niveau-là. Mais surtout, on n'a pas eu de croissance en regard. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent pendant une période où ça allait bien, avec le concours Lépine de 2021. On ne savait pas comment dépenser l'argent du plan de relance européen. Ouais. Il fallait des bonnes idées. Bon, bref, on a dépensé beaucoup. Et au bout du compte, on n'a pas eu la croissance qu'il fallait. Et donc, du coup, l'heure de vérité, elle arrive à un moment donné.
Oui, c'est ça. Alors, parce que l'heure de vérité, elle se joue à deux niveaux. Marc Landré, vous nous avez rejoint. Bonsoir, consultant associé chez Sia Partners. Le gouvernement craint en effet que la France soit dégradée vis-à-vis des agences de notation, mais surtout que la majorité soit sanctionnée au niveau européen à cause de sa mauvaise gestion.
L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont totalement corrélés. Effectivement, comme le disait Bruno, fin mai, il y a juste avant les élections européennes, et surtout l'agence du lundi, la fameuse S&P qui donnera sa note quelques jours avant les jours européennes. Dans les deux cas, on a un double A, ou du moins on est en perspective négative. Et donc on sait que ça veut dire que la probabilité d'être dégradé est beaucoup plus forte que celle d'être maintenu. Et vu que depuis maintenant quand même quelques semaines, comme le disait intelligemment Bruno, on accumule les mauvaises nouvelles pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas sur le front des finances publiques, il y a quand même beaucoup de probabilités pour qu'on soit dégradé. Donc en vérité, l'agitation ce soir à l'Élysée vise à montrer qu'on a pris le taureau par les cornes et qu'on va essayer de trouver des solutions pour montrer qu'effectivement, on est mobilisé, on est volontaire
pour
essayer.
C'est pas trop tard, là, si les agences de notation décident que dans deux mois, elles allaient nous dégrader, même quand bien même nous auraient téléphoné
en...
En
vérité, le problème est... Enfin, je ne dis pas que le problème n'est pas les agences de notation. On
c'est
a
ce
vu.
Qui s'ensuit, oui.
C'est ce qui s'ensuit. Et surtout, c'est la manière dont l'opinion perçoit je dirais, l'agilité, la plasticité de l'exécutif à essayer de répondre aux problèmes qui sont posés à la France. Donc, plus le gouvernement va s'agiter pour montrer qu'il a pris conscience du problème de la dette, et on l'a vu ce week-end avec une interview de 3 pages de Bruno Le Maire dans le JDD. Voilà. Le gouvernement a pris conscience de l'ampleur du problème, ouais. Même si ça fait 10 ans qu'il ne cesse de dire exactement la même chose tous les 6 mois. Et donc, il va falloir qu'il prenne quelques actions correctrices symboliques fortes pour montrer qu'effectivement, il a compris.
Mais vous avez parlé de l'opinion publique, mais il y a aussi le paysage politique. Henri, est-ce que tout ça donne raison au parti de l'opposition qui avait interpellé le gouvernement il y a quelques mois quand il avait présenté son budget 2024 et pour reprendre leurs termes, on parlait d'un budget tronqué et un budget insincère. Et là, c'est vrai que le gouvernement est revenu sur toutes ses prévisions.
Foncièrement, je pense qu'un budget doit être insincère. C'est normal. Je veux dire, on ne doit pas faire le budget.
Le gouvernement est raison de gonfler les chiffres.
On ne doit pas faire un budget en se disant cette année, ça va être tragique. Et donc, puisqu'on va avoir un ralentissement de la croissance, on va réduire les dépenses ou augmenter les impôts. Donc, c'est normal qu'effectivement, on essaye d'avoir un budget qui ne pèse pas trop sur l'activité. Et puis, je veux bien qu'on dise il faut prendre des mesures ce soir. Je ne vois pas très bien quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre aujourd'hui. Dans la situation où on est, quelles sont les mesures de masse que le gouvernement pourrait prendre, sachant par ailleurs que le gouvernement a déjà annoncé 10 milliards de réduction de dépenses.
Oui, et puis au final, c'est censé être 50 ans.
Le problème de notre pays, c'est aussi que le président de la République croit qu'il est ministre de tout. Et comme on l'a vu, M. Attal croit qu'il est encore ministre de l'Éducation nationale ou ministre des Comptes publics, comme on l'a vu cet après-midi.
Non mais d'accord, mais mon point sur les prévisions, c'est qu'aujourd'hui, on a un budget et un cap qui est basé sur 1,4% de croissance et qu'il faut tout revoir.
On aura, un budget correctif cet été, un PLFR cet été, pour revenir dans les clous avec les chiffres à date, qui ne seront pas forcément ceux de l'exécution du budget en fin d'année, mais à la limite, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Il y a simplement quelques petites variations en fonction de l'évolution de la conjoncture d'une année sur l'autre. Mais je suis d'accord avec Henri, pour le coup, un budget, il doit être insincère, parce qu'un budget doit être volontariste. Bon. C'est ce que disait Michel Sapin. Si je viens pour annoncer des mauvaises nouvelles quand il était ministre de l'économie, il dit on va pas m'écouter.
Enfin, le bilan de Michel Sapin n'est pas que positif non plus,
il n'est pas totalement négatif non plus.
Parce que il y a la semaine prochaine, il y aura nouveau.
Un budget, ça doit être volontariste. Donc forcément, c'est menteur, c'est insincère.
La question, pour répondre au prolonger la question d'Henri, c'est quelles mesures effectivement pourraient être annoncées. Vous sentez bien qu'il y a une synthèse à faire au sein même de la majorité entre ceux qui veulent y aller de manière volontaire et ceux qui émettent d'autres idées. Certains qui disent on avait dit non aux hausses d'impôts, mais peut-être que des hausses d'impôts ciblées ici ou là, pourquoi pas finalement. Voilà.
Non mais d'abord sur l'insincérité, le problème n'est pas la nature, bien sûr c'est un petit peu insincère toujours, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est le degré.
Oui, voilà.
D'avoir une prévision de croissance du double de ce que...
Ah non,
mais si,
on n'a pas le droit de faire des ratios entre des pourcentages.
Oui, enfin, je sais, Donc, on était à 1,4 au lieu de 0,7. Bon, oui. Ok, donc on peut se dire les choses. On était à 4,4 de déficit là-dessus, là on va prendre pas loin d'un point. Oui. Donc du coup, il y a un problème de... degré.
Ah ben ce sont des grands écarts.
On pourrait se dire que c'est parce qu'il est volontariste ce budget. Ouais. Or, il ne l'est pas. Ouais. Ce budget, c'est juste la prolongation de ce qu'il y avait avant. Comme les coupes du mois de février sont des coupes de rabot, c'est-à-dire sans stratégie. Et c'est pour répondre à la question de Guillaume. Le problème de savoir quelles mesures on va prendre, c'est d'avoir une stratégie.
Il n'y en a pas.
Donc, Il n'y en a pas. C'est toujours la même. C'est on ne va pas augmenter les impôts alors qu'on ne cesse de voir le.
On va le faire. Augmenter. On va quand même augmenter les impôts.
Et l'aile gauche de la majorité qui commence à plaider pour des hausses des taxations.
Alors Matignon préfère augmenter la pression sur les fraudeurs plutôt qu'augmenter les impôts sur les Français. Enfin, ça, ils l'ont dit, c'est la ligne rouge.
Soit de droite ou de gauche, au bout d'un moment, on finit par dire qu'on va taxer plus les chômeurs. Enfin, pardon, pas les chômeurs. Lapsus.
Lapsus.
On va lutter beaucoup plus contre la fraude. Mais ça, c'est un intemporel. Le vrai problème, c'est de faire des choix. Je vais juste faire un petit flashback. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 au Canada ? Au Canada était le parent pauvre de l'Amérique et c'était un pays qui était au bord de la faillite. Il a fallu qu'ils prennent des décisions et donc ils ont fait une réforme de leurs finances publiques. Et donc ils ont décidé de couper de 10% l'intégralité de leurs dépenses publiques. Mais quand je dis de 10%, c'est qu'ils ont fait 10% partout. Il n'y a pas eu une exception. Pas une.
Et alors ?
Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Alors Henri vient me dire. C'est plus compliqué que
c'est
ça.
C'est du rabot avec un grand R.
Bah, la protection du système social a été revue.
Hôpitaux, dire aux gens, ben voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez leur salaire ou vous en videz 1 sur 10? Et les enseignants, c'est pareil, vous baissez leur salaire?
Ah, les enseignants,
vous en videz 1 sur 10? Mais non, c'est
et les économistes
c'est,
aussi.
C'est pas une solution.
Les économistes sont une
proposition.
Non, mais
c'est une proposition.
C'est une proposition.
Qui a marché à l'étranger.
C'est une proposition.
Qui a marché, je suis désolé.
Qui a un sens, il y a d'autres propositions.
Non, mais Henri, on ne peut pas nier le fait qu'on a une structure de dépenses qui est complètement différente de l'ensemble de nos voisins européens. On dépense globalement beaucoup plus surtout et avec une dépense publique qui n'est plus efficace.
Et depuis 50 ans.
Non mais le problème c'est l'efficacité. Non mais il y a deux problèmes. Il y a le problème de la protection sociale et il y a le problème du reste. Donc la protection sociale, peu à peu, on l'a transformée en redistribution. C'est-à-dire on avait des assurances sociales, très bien. C'est facile de consentir à une cotisation. C'est relativement facile de dire dans ce cadre-là, chacune des assurances est équilibrée. À partir du moment où on prend dans ces caisses-là pour faire de la redistribution parce que soi-disant ces assurances ne fonctionnent pas mais qu'on ne résout pas les problèmes éventuels pour lesquels ça fonctionne, déjà on ne s'en sort pas. Donc la première chose, séparer la question des assurances sociales de la question de la dépense publique régalienne, etc. Mais le point c'est si on met tout dans le même pot...
Marc-André a l'air dubitatif.
On supprimera...
Voilà, on confond moyen objectif.
Au bout du compte, c'est le point, il y a des objectifs et des moyens sur la protection sociale. Ce sont des assurances. Ça ne fonctionne pas du tout comme des impôts.
On dépense 4 points de
plus. C'est une très bonne idée, mais le problème, où est-ce que tu mets la frontière? Où est-ce que tu mets la santé, les prestations familiales? Ben, ça n'existe plus, ça.
Les prestations familiales ne sont pas une assurance. Ça, c'est la première chose, c'est une politique régalienne.
Voilà.
La deuxième chose, c'est la santé. En grande partie, c'est une assurance. Pas tout. L'assurance chômage, c'est 100% de l'assurance. La vieillesse, ça, c'est de l'assurance. Ça peut être de la capitalisation. Je pense que tu n'es pas d'accord. Mais le point, c'est que ça peut être autre chose.
Alors, comme quoi, les économistes de l'EFCE ne peuvent pas être d'accord entre eux.
Je ne vais pas les mettre d'accord, mais ça fait 50 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Qu'un État soit en déficit et accumule la dette, c'est normal quand il investit. Quand c'est pour financer ses dépenses courantes, ce n'est pas normal, qu'elle soit publique ou pas publique.
Ah oui, on est bien d'accord avec ça.
Ça, on est d'accord. Ouais. Le vrai problème, c'est que si vous prenez un foyer, et Henri va me dire, on ne peut pas comparer un État à un foyer, c'est vrai, mais quand même. Je veux dire, un foyer qui vit depuis 50 ans dans les dettes, je suis désolé, il n'achète plus de
Une entreprise aussi, à ce moment-là.
Elle fait des choix. Le problème en France, c'est qu'on refuse de faire des choix et qu'on ne cesse de vivre au-dessus de nos moyens. Allez. Le jour où on aura compris cette logique que gouverner, c'est choisir, on fera des choix.
Vous voulez dire la France a un de courage politique.
La France a un patrimoine qui représente 7,3 fois. La France a un patrimoine en usines, etc., etc. Qui représente 7,3 fois le PIB.
Et donc,
ça ne fait pas manger les gens.
Ça fait pas manger les gens.
Mais si, ça fait manger les gens.
Ça n'est pas du beefsteak dans les assiettes.
Les fonds de pension américains.
Il vaut mieux vivre en France que vivre dans un autre pays.
Allez, on mettra pas.
N'exagérons pas.
Sur le patrimoine. Je veux dire, si c'est des casernes en banlieue de Nancy, les fonds américains considèrent que c'est pas liquide. Et je crois
il n'est pas question des casernes. Il est question du patrimoine de la France global avec ses usines, ses routes, tout ça.
Je pense que les pauvres sont contents de vivre à côté d'un château.
Tu vas vendre les routes privatisées. Ils ont une belle vue chaque jour. C'est la dette.
En tout cas, quand vous voyez
les routes, ça ça te fournit un service qui a une valeur. Je veux dire, on peut pas, un pays comme la France a besoin d'infrastructures.
Allez, le rappel des titres pour apaiser le débat et le plateau.
Effectivement, entre demain, rendez-vous à Bruxelles, effectivement, la présentation des comptes de la nation le 26 mars, la semaine prochaine, les agences de notation fin mai. Fin juin, ah ben Standard
& Poor's. On va avoir de quoi débriefer, oui.
On est dans une séquence qui va être intenable pendant deux mois. Vous comprenez qu'on sonne le rappel et qu'on invite tout le monde à dîner ce soir, finalement. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir se sont presque mis d'accord durant la pub.
On revient. On dira pas sur quel sujet.
Non, voilà, c'est exactement. Bruno Coquet, Henri Sterdignac et Marc Landré. Alors, on pose la question, faut-il punir plus sévèrement les entreprises qui ne tiennent pas les délais de paiement? En tout cas, c'est ce qu'a proposé ce matin la ministre déléguée aux entreprises, Olivia Grégoire. Car visiblement, Guillaume, les choses dérapent.
Ouais, les choses dérapent, les trésoreries se tendent. D'après la ministre, il y a 15 milliards d'euros qui se baladent dans la nature. Ça entraîne et ça peut entraîner encore beaucoup de défaillances. Donc, elle propose entre autres de doubler le plafond des sanctions. C'est 2 millions d'euros aujourd'hui, mais ça n'a concerné que deux entreprises ces dernières années, Renault et Unilever. Est-ce que c'est pas une fumisterie de dire on double ce plafond de 2 à 4 millions d'euros finalement quand même,
c'est... Bah, la fraude, c'est comme l'auto, hein. Pour gagner, faut jouer. Donc pour être chopé quand on est fraudeur, bah, il faut avoir été contrôlé. Et quand on voit le nombre d'entreprises qui sont contrôlées sur leur délai de paiement,
c'est
pas grand-chose. Mais parce que là, pour le coup, on ne met pas les moyens effectif dans la recherche et le contrôle de la durée des délais de paiement. Mais en vérité, ça fait 10 ans que progressivement, chaque année, à chaque micro-crise, à chaque dérive, on augmente, on multiplie par 2 le plafond. Il faut savoir qu'au départ, il n'y avait pas de plafond. On l'a commencé à le créer et au départ, il n'était pas énorme. Il était à 150 000 euros pour aller maintenant à 2 millions. Oui. Donc ça veut dire qu'on prend conscience dans la durée de la nécessité de sanctionner effectivement des entreprises, notamment des grands groupes. Et là, on les connaît. Hein. C'est Altice, c'est SFR, c'est Renault, c'est ArcelorMittal, ce sont toujours les mêmes, grosso modo, qui payent mal ou qui payent au-delà des règles légales.
Oui, enfin, sauf que là, après 3 années de baisse, les délais de paiement repartent à la hausse, ça fragilise forcément les PME, d'où cette mesure.
Comme les défaillances d'entreprises, mais c'est normal, parce que pendant 3 ans, on a subventionné,
oui, mais la conjoncture économique est quand même beaucoup plus morose aujourd'hui qu'elle ne l'était avant.
Il n'y a plus d'aide de l'État ou beaucoup moins
d'aide de l'État. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà. Donc la Commission européenne propose aujourd'hui de réduire les délais de 60 à 30 jours. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée,
Henri? Alors, Olivia Grégoire, pour éviter ça, sort autre chose, un truc un peu fictif, de doubler une amende qui n'est pratiquement jamais donnée. Bon.
Alors, est-ce que vous penchez pour Olivia Grégoire ou pour la Commission européenne?
Parmi une personne qui ne paye pas, parmi une institution qui ne paye pas en temps et heure, c'est avant tout et surtout l'État et les collectivités locales. Donc c'est quand même...
Qui seront sanctionnés, il y aura le name and shame. Voilà.
Qui ne payeront pas l'amende. Ouais. Et par ailleurs, comme vous savez, il y a certains secteurs qui ont besoin de délais plus longs, notamment les libraires. Et puis les restaurants, donc... Non,
vous avez vu ce que dit...
Bien sûr.
Oui, ils sont épargnés par la division par deux.
Ah ben non, parce que justement, pour la restauration et notamment le commerce de détail, mais ça va poser problème, parce qu'ils ne vont pas vendre deux fois plus vite leurs marchandises, alors qu'ils vont devoir rembourser deux fois plus vite.
Donc ils ne seraient pas concernés.
Donc il faut de toute façon ne pas qu'ils ne soient pas concernés par la directive européenne, si jamais la France ne s'y oppose pas. Bon, les 15 milliards qui sont dans la nature, disons, mais c'est surtout inter-entreprise.
Oui.
Et puis, bon, il y a quand même les collectivités locales qui doivent payer.
Ah, le détail qui est aussi bien mauvais payeur.
L'État,
est mauvais payeur. Non, mais ce que nous disent aujourd'hui les acteurs du recouvrement, le cabinet ARC, pour ne pas citer, qui vient nous voir, qui lui dit de toute façon, faites pas l'histoire, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ne peuvent survivre que parce qu'elles allongent en permanence les délais de paiement, finalement. On en est là, très clairement.
Bruno.
Ben oui, c'est l'arme anti-crise par excellence, quoi, finalement, aujourd'hui, pour beaucoup de boîtes aujourd'hui.
La Banque de France sait où sont les trésoreries. Donc, du coup, on voit bien qui sont ceux qui en profitent et puis ceux qui sont plutôt victimes, indépendamment, effectivement, de la situation financière d'entreprises qui vont mal. Et donc, bon, du coup, ils n'ont pas de trésorerie. Mais structurellement, par secteur, on doit bien voir qui vit aux dépens de qui. Alors, évidemment, je suis 100% d'accord qu'il ne faut pas balayer devant sa porte. Et donc, que l'État doit commencer par lui-même, montrer l'exemple. Oh, et oui. Après, du coup, il est plus facile de dire aux autres qu'ils se comportent mal et qu'il faut qu'ils rentrent dans le rang.
Oui.
Après ça, si on peut payer le resto avec un délai de 30 jours, moi, je serais très, très content.
Oui, oui, moi aussi. Non, mais le cabinet Altares, qui a mesuré l'impact de la mesure proposée par la Commission européenne, dit quand même que 3 PME sur 5 pourraient récupérer jusqu'à 14 milliards d'euros en termes de liquidité. C'est pas mal.
C'est énorme.
C'est énorme.
Et les banques là-dedans, que font les banques?
Non.
Elles aident, parce qu'elles identifient bien les...
Les banques, elles sont au service de leurs clients quand elles sont dans le besoin pour éviter des liquidations et des mises sous tutelle. Ouais. Mais en vérité, la vraie nouveauté de ces chiffres, je dirais 2024 sur les délais de paiement, c'est le fait que aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, les PME aussi ne sont plus que victimes des délais de paiement, elles sont aussi coupables. C'est-à-dire qu'elles aussi maintenant, parce que leur trésorerie est très compliquée.
Ah bah parce que le mur des faillites finit par arriver.
Elles n'ont pas le choix.
Elles n'ont pas le choix.
Elles ne faisaient pas avant. Oui. Avant, il y avait vraiment une dichotomie entre les grands groupes qui tiraient sur les délais de paiement et qui ont usé de cette trésorerie pour asphyxier les PME, provoquant jusqu'à 25% de faillites. Oui. Les délais de paiement sont responsables de 25% des faillites en France. Oui. De PME. Oui. Mais aujourd'hui, la petite différence par rapport à avant, c'est que les PME aussi s'y mettent et c'est un indicateur avancé de conjoncture qui montre que ce qui nous attend d'ici la fin de l'année 2024 n'est pas forcément très positif. Ce
qui est absolument inégalitaire en plus, c'est
que... C'est parce que la norme a baissé. Hein, c'est un peu... Voilà, donc du coup, il n'y a plus de gens qui dépassent et forcément, il y aura de plus en plus de PME qui vont dépasser de la norme. Si on baissait, on trouverait encore des entreprises plus petites.
Ce qui est assez injuste, c'est quand vous regardez le ratio de montant de l'amende sur le chiffre d'affaires des boîtes, fondamentalement, les grosses boîtes, ça ne fait qu'abîmer leur image, alors que les petites boîtes, finalement,
mais ça marche aussi, hein.
Comme ça.
Abîmer l'image, le si dans la société aujourd'hui, dans la société moderne, des réseaux sociaux, de la marque employeur, où il y a la guerre des talents, où il faut se battre pour recruter des bons profils, je veux dire, le fait d'avoir l'opprobre sur soi parce qu'on paye pas une PME, ces PME, et parce qu'on provoque des faillites, je veux dire, à long terme, c'est pas jouable.
Enfin,
c'est
pas tenable. Si dit, juste pour terminer sur le sujet, si jamais la mesure était mise en place au niveau européen, ça pourrait créer des distorsions de concurrence avec des fournisseurs extra-européens.
On n'y est pas.
Non, on n'y est pas. Mais enfin, d'accord, mais il vaut mieux en parler avant, justement. Bon. Que ça ne se mette en place.
Question qu'on voulait vous poser, est-ce que le Rassemblement National est en train de faire une percée dans les milieux pas trop d'eau? On vous pose la question parce que Jordan Bardella était auditionné aujourd'hui encore par la CPME qui va auditionner toutes les têtes de liste aux européennes de juin prochain. Voilà ce qui s'est passé, c'était ce matin au siège de la CPME.
Qui le fait depuis 10 ans.
Voilà, c'est ça, parce que ça fait des années en effet que le RN fait tout pour s'attirer les voix des patrons et des petits patrons. Donc il leur parle de baisse, voire de suppression de certains impôts de production, évidemment ça a marché, de normes, d'allègements, de réglementations, de la directive CRCD.
La fameuse CRSD. Est-ce que vous sentez que ça commence à infuser dans les milieux patronaux, les thèses du Rassemblement National?
Bien, je ne sais pas ce que c'est que les milieux patronaux.
Ah, pardon, oui.
Les milieux. Non, je veux dire les milieux patronaux.
Bah, les entreprises,
c'est à la fois
patrons,
les grandes boîtes qui, évidemment, peuvent être moins sensibles, et puis les petits patrons qui, comme leurs employés, comme leurs ouvriers, bon, peuvent être sensibles à ce discours qui est quand même un discours attrape-tout, puisque un jour on promet supprimer tel ou tel impôt, on promet de supprimer les normes et on se promet de supprimer les cotisations sociales sur les hausses de salaire, et puis par ailleurs on fait des promesses aux salariés avec l'idée quand même pas très pragmatique qu'on va tout faire payer par la réduction du nombre d'immigrés, et puis avec un programme européen qui est souverainiste et qui n'est pas très crédible. Quand on a entendu tout à l'heure Bardella nous dire qu'il allait annuler certaines directives européennes.
Ça plaît?
C'est...
Bah oui, ça plaît. Mais
ça
quand
plaît,
même.
Mais bon, voilà.
Avec un changement de cap idéologique, j'ai été assez étonnée par cette formule de Jordan Bardella qui dit que le nouveau clivage n'est plus entre l'Europe fédérale et ceux qui veulent moins de fédéralisme, mais entre ceux qui croient encore à la croissance et ceux qui aspirent à la décroissance. Enfin, il devient pragmatique, non?
C'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen était étatiste et souverainiste.
Ouais.
Jordan Bardella, c'est plus dans la filiation du grand-père de Jean-Marie Le Pen. Il est libéral.
Oui,
donc, il plaît aux entreprises. Il plaît aux entreprises parce qu'il a un discours qui a croche. Mais ça, c'est, je dirais, à la limite, c'est pas nouveau. Et il ne fait aujourd'hui que dérouler le tapis que les médias et que beaucoup ont fait depuis 10 ans. Mais la petite différence par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, dans le programme du FN, parce que moi, je continue à appeler ça le Front National, dans le programme du FN, il n'y a plus de mesures véritablement repoussoires comme il pouvait y en avoir encore il y a quelques années. Il n'y a plus de question de sortie de l'euro.
Je veux dire, aujourd'hui, la seule mesure qui peut éventuellement choquer,
il le dit d'ailleurs, oui, oui.
C'est la retraite à 40 ans, la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais c'est pas très tellement loin de ce que propose LFI. Donc à la limite, les extrêmes se rejoignent par l'autre côté, c'est assez cohérent. Mais à part ça, vous avez beaucoup de petits patrons, Henri a raison, qui sont séduits par le populisme, par la démagogie, je dirais, rhétorique du FN, parce qu'il leur parle un discours qui les flatte.
Et il a rassuré tout le monde en rappelant que son parti ne défendait plus le Frexit.
Et puis, ça parle aussi à beaucoup de petits patrons, alors qu'ils sont confrontés à l'arrêté des chiffres. On voyait ce chiffre qui circulait, qui faisait que vous avez 20% des petits patrons aujourd'hui qui se payent au mieux au SMIC. Et ouais. 55 000 patrons qui se sont retrouvés au chômage l'an dernier, 33% de plus que l'an dernier. Voilà, ça aussi, ça parle à une frange du patronat aujourd'hui quand même, Bruno.
Ah oui, c'est normal. Enfin, moi, bon, après, oui. Je considère qu'il est normal de parler à tout le monde, donc d'échanger avec tout le monde, de savoir ce que l'homme politique propose et ce que les organisations patronales, en l'occurrence, veulent. Donc du coup, je pense que ça, c'est la base de tout. Même Emmanuel Macron parle avec Jordan Bardella, donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Après ça, ce qui me frappe, c'est que les arguments sont français sur des mesures françaises.
Et c'est précisément d'ailleurs ce que les petits patrons ont reproché aujourd'hui à la CPME. Ils disent voilà, ils sont plus pragmatiques qu'avant, mais enfin, ils sont quand même un peu trop franco-français. Ils regardent pas vraiment ce qui se passe
avec le petit patronat. Parce que quand vous avez le nombre d'entreprises exportatrices, c'est quand même très limité en France. La réalité du secteur économique français, c'est-à-dire du tissu économique français, ce sont des petites PME qui ont une chalandise départementale. Donc eux, le côté européen, à part les aides qu'elles peuvent toucher, mais encore faut être fort pour pouvoir les obtenir, les décrocher avec les
procédures administratives. Oui, mais il y a beaucoup d'évolutions qui se décident à Bruxelles qui concernent aussi nos PME. Et c'est vrai que le discours était très bleu-blanc-rouge. Hein.
Mais Bardella a dit clairement...
Les directives, il parle de quelque chose qui se passe à Bruxelles et qui a de l'impact dont tu ne vois pas la chaîne qui mène jusqu'à toi.
Bardella a dit clairement, je fais trois paquets des mesures de ce qui se passe en Europe. Je suis bien pour la coopération entre États. Et puis, par ailleurs, tout ce qui concerne les directives, les normes, tout ça, hop, je mettrai mon veto. Et
voilà. Donc,
c'est un discours européen.
Oui, c'est ça.
Souverainiste, mais c'est un discours quand même européen.
Et qui ressemble très opérationnel, puisqu'il a même donné un an à toutes les filières professionnelles pour lui envoyer les normes et réglementations qu'elles estiment soit délirantes, soit mal ficelées, soit essentielles.
Bruno, voilà. Non, mais ça, c'est le... Voilà. Tout à l'heure, on disait le budget est forcément insincère, la campagne électorale aussi. Donc,
bah, il y a
comme ça. Enfin, c'est normal.
Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe en Italie? Est-ce que ce qui se passe en Italie n'a pas infusé quand vous voyez que Giorgia Meloni finalement a réussi à gagner la confiance des milieux patronaux,
parce qu'elle
a réussi à faire infuser l'idée que économie extrême droite.
Oui, mais parce qu'on sait que c'est Mario Draghi qui gère tout derrière.
Enfin, elle continue la politique qui avait été faite par Modigliani avant, parce qu'elle n'a pas appliqué le programme sur lequel elle a été élue. C'est l'intelligence de Meloni en Italie que d'avoir fait campagne pour se faire lire sur un programme et d'en appliquer un autre une fois qu'elle est élue. C'est un peu du Jacques Chirac 95-97.
Oui, mais les finances publiques ont un énorme problème.
Certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on parle de Bardella en France, Donc ça veut dire que ce qui est possible en Italie peut-être l'est aussi en France, et que cette espèce de réal politique qu'a fait Meloni en Italie, beaucoup de patrons peuvent se dire, si jamais Bardella arrive au pouvoir, eh ben peut-être qu'il aura la même stratégie qu'a eu Meloni, et donc c'est l'épouvantail n'est pas aussi.
La politique était compliquée, elle devient.
L'idée, c'est d'avoir le thème de Bardella, c'est quand même d'avoir une voix française plus importante à Bruxelles qui dise non. Et là, bon, ben voilà, ça peut aussi bien sur l'immigration pour séduire certains milieux que je ne désignerai pas, et par ailleurs. Contre toutes les directives européennes et naturellement.
Enfin, c'est aussi, Henri, mener une politique de l'offre et une politique de la demande en même temps, quand on écoute.
D'accord, il y a une incohérence. Si vous regardez l'ensemble du programme, il y a une incohérence. Là, aujourd'hui, il est libéral. Et par ailleurs, bon, il y a quand même un programme de dépenses publiques.
En même temps.
Pas perdre de vue non plus, quand vous avez 89 députés à l'Assemblée, comme c'est le cas du Rassemblement National depuis 2022, peut-être qu'on vous écoute un petit peu plus. C'est que pour faire passer des idées aussi.
Et puis, il y a une respectabilité qu'ils se sont achetés depuis 2022. Ouais. Je suis désolé.
La cravate.
Aujourd'hui, à l'Assemblée, le bordel, c'est LFI qui le fait.
Ouais.
C'est pas le Front National. Voilà.
C'est sûr qu'ils ont été dédiabolisés. Ouais.
Évidemment. Et ça continue.
En termes de wording, c'est pas européen. C'est quand même un sujet. Ils peuvent avoir aussi des choses à dire sur l'Europe.
Ils n'en disent pas beaucoup.
Et moi, je trouve ça. Ils pourraient reprendre les mots et dire autre chose que leurs adversaires politiques. Et ils ne le font pas. Et donc,
Bruno, si jamais les gens s'intéressaient au programme européen pour les élections européennes, ça se saurait.
Il reste 3-4 mois, allez, il reste 3-4 mois. Allez,
mais on peut être optimiste.
Il reste 3 mois de quoi? Combien? Oui, 3 mois.
Il y a des partis qui font pire.
Voilà, comme ça. Mais il y aura des débats télévisés, vous allez voir ça.
Ceux qui disent que c'est une avant-élection présidentielle, c'est pire.
3 minutes avant vos avis du soir pour parler, alors un petit mot d'environnement. Parce qu'on a appris aujourd'hui que les restrictions de circulation strictes, vous savez, les dispositifs des fameuses zones à faible émission, les ZFE, ça concernera finalement que les métropoles de Paris et de Lyon au 1er janvier 2025. Vous me direz, ça fait quand même du monde. Mais vous avez 40 autres métropoles qui pourront choisir d'autoriser, si elles le souhaitent, la quasi-totalité des véhicules à circuler. Est-ce qu'on n'est pas en train de retirer une mesure potentiellement gilet jaune, finalement, dans cette histoire?
Henri.
Un peu, oui, ailleurs, on peut dire comme une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité de l'atmosphère, en particulier dans ces villes, qui justifie qu'on n'aille pas jusqu'au bout de la mesure. Donc, c'est pas tout à fait catastrophique. Et puis, les mesures écologiques, tout le monde sait que ça marche difficilement et que c'est qu'un cas.
Non mais c'est vrai Marc, parce que je vous me sens un peu dubitatif, mais la qualité de l'air en effet s'améliore, notamment sur les particules fines.
Oui, mais ça c'est pas lié au fait qu'on empêche les voitures de critères 3 ou 4 de circuler. C'est le fait que les voitures qui circulent dégagent moins de particules fines. Oui. Donc c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est les constructeurs automobiles qui produisent des véhicules
plus propres, on a moins besoin de mettre en place des restrictions.
Quand on y réfléchit deux secondes, le vrai problème en vérité, c'est que les exclusions ou inclusions des voitures dans les centres-villes vont pas dépendre en vérité de la qualité de l'air, elle va dépendre de l'étiquette politique de la mairie. Et donc, en termes d'égalité sur l'ensemble du territoire, ça laisse à désirer. Parce que ce qui va se faire à Bordeaux parce qu'il y a un maire vert, ce qui va se faire à Strasbourg parce qu'il y a une maire verte, ça se fera pas dans une autre ville, alors que la qualité de l'air sera peut-être meilleure.
Et c'est la démocratie. Non, mais c'est la démocratie. Si vous votez pour un maire rigolo, vous votez pour certaines mesures.
Bruno Coquet.
Il y a un vrai problème, c'est que effectivement, le parc se renouvelle avec des véhicules électriques subventionnés, on fait plus de diesel sale depuis un certain nombre d'années.
Et donc ça marche.
Ah oui, de ce côté-là, ça marche. Mais il reste encore. Il y a des gens qui ont des vieilles voitures, qui ne peuvent pas faire autrement, qui vont devoir les conserver longtemps. Et donc, pour eux, on ne pouvait pas leur interdire l'entrée dans les centres-villes. Enfin, ça me semblait délirant.
On était partis pour, Bruno.
Sauf dans les villes écolo.
Oui, alors après, on a dit qu'il n'y aurait pas de contrôle automatique. Donc, peut-être que ça laisse une petite marge de manœuvre. Mais quand même, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, à Paris et Lyon, il y a ce problème.
C'est quand même pour que les véhicules
écologique doit être accompagné d'une mesure redistributive. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement...
Mais ça fait encore plus d'État et plus de déficit.
Il faut aider les ménages les plus modestes qui ont des vieilles voitures à en changer.
Il faut des choix.
C'est ce que fait le gouvernement.
Bon. Oui. Allez. Quarantaine de métropoles qui pourront faire ce qu'elles veulent, à l'exception des véhicules immatriculés avant 1997, donc des véhicules qui ont 27 ans. Ouais, il en reste encore des véhicules.
J'ai fait un apéro hier soir, j'en ai vu une.
3%
Ah bon ?
Oui, dans le jardin, il y avait une voiture en dessous de 90. Il y avait la même quand j'étais jeune.
27 ans ? Immatriculé il y a 27 ans ?
Oui. Mais elle tombe pas en panne celle-là, parce qu'il n'y a pas d'électronique dedans.
Ah bah c'est pas ça. Des pièces de musée. Voilà, donc mesure, je vous cite ce que disait Christophe Béchu, on nous disait que ça allait devenir des zones de forte exclusion, que si on avait aimé les gilets jaunes, nous allions adorer les ZFE, et donc on a calmé le jeu en fait. Voilà ce que disait Christophe Béchu.
On en reparlera.
À suivre.
Il nous reste 3 minutes sur ces entrefaits, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, vos coups de gueule, vos coups de cœur, en 30 secondes chrono, c'est la règle impitoyable évidemment de ça.
Allez, c'est Henri Sterlignac qui ouvre le bal.
Allez Henri, 30 secondes.
Et ben moi, j'ai lu le livre de Bruno Le Maire et ce qui m'a profondément énervé, c'est que Monsieur Bruno Le Maire remet sur le tapis la TVA sociale. La TVA sociale, du point de vue économique, on a démontré il y a 30 ans que c'est une bêtise totale, que ça ne permet absolument pas d'améliorer la situation économique sans nuire au pouvoir d'achat des salariés. Donc, redire aujourd'hui « Ah mon Dieu, j'ai trouvé un remède miracle, c'est la TVA sociale », non, ce n'est pas sérieux.
Parce que c'est très injuste. Donc, Henri Sterlignac, vous conseillez plutôt votre livre que celui de Bruno Le Maire.
Voilà, évidemment. Quand je pense à TVA sociale, je me rappelle 2012. Toujours la façon dont Sarko avait 2007, sorti 2007, ça. 2007. Non, 2012, à quelques mois de la campagne, qui ressuscite la TVA sociale.
C'est Jean-Louis Borloo qui, sur le plateau de France 2,
et qui plante
parle de TVA, il fait perdre 50 députés, UMP à l'époque, la majorité.
Il ne faut pas dégainer ça.
Justement, deux tours. Marc, allez-y, c'est à vous en 30 secondes.
Coup de cœur auto-promo. AWS, Amazon, attribue régulièrement une certification qui s'appelle une compétence AWS IA générative. Elle l'a accordée à
Sia Partners, le groupe auquel j'appartiens, il n'y a qu'une dizaine de sociétés dans le monde qui bénéficient de cette compétence, de cette certification, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que AWS reconnaît à Sia Partners sa capacité, son ingénierie, son expertise pour mettre en place de l'intelligence artificielle générative chez ses clients. Et ça, c'est une petite différence qui fait toute la différence.
Et c'est français, monsieur.
Et c'est français,
et c'est
monsieur.
Français, monsieur. Voilà. Congratulations, félicitations à Sia Partners. Bruno Coquet, 30 secondes, mon cher Bruno, c'est à vous.
Moi, je ne suis pas comme Henri. Bruno Le Maire m'a pas envoyé son livre. Et donc, du coup, j'ai lu les programmes électoraux. Bruno. Et donc, moi, ce que je regrette, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que quand même, dans cette campagne européenne, il y a quand même un sujet de ne pas parler du tout de sujet européen. Je comprends qu'on fasse une campagne française, mais quand même, si vous regardez l'agenda du Conseil de printemps, on parle d'élargissement. Ouais. On n'en parle pas tellement, alors on parle un peu d'Ukraine. Ouais, on parle d'élargissement à d'autres pays, quand même. On ne parle pas de subsidiarité, alors qu'on a cette histoire de congés payés, là, qui est quand même un énorme problème du point de vue des politiques sociales en Europe. On va parler du budget, etc. Enfin, des procédures budgétaires, etc. Mais en tout cas, on ne parle pas de sujets européens, mais on pourrait parler de sujets européens avec résonance française, contrairement à ce que dit Marc.
Eh bien, voilà, la boucle est bouclée. Merci, messieurs.
On n'en parlera peut-être pas pour les trois mois qui viennent, ça se trouve, je vous confirme, effectivement. Merci, messieurs. Voilà. Bruno Coquet, Henri Sterdignac et Marc-André étaient doutes avec nous ce soir.
Merci à vous.
Sur BFM Business. Merci. À très vite, avec très plaisir, vite. Pour de nouvelles aventures. Merci. Dans.
À l'heure, la prochaine fois, Marc, évidemment.
Il faut dire ça à Jean Castex.
La ligne 8, c'est ça la ligne 8 ?
La ligne 8, la fameuse ligne 8.
C'est dur, effectivement.
À ne pas prendre.
C'est dur pour tout le monde. Oh, c'était la seule. Voilà, je referme la parenthèse. Bah, c'est terminé pour ce soir sur ces entrefaites.
Oui, alors pas de panique, parce que le débat, bien sûr, comme tous les soirs, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, deuxième bonne nouvelle, on se retrouve demain soir, évidemment.
Bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h-20h, en direct pour Nouvelles Aventures. Dans un instant, François Sorel, Tekkenco, édition spéciale. On va parler de tourisme spatial, mesdames, ouais, messieurs, ce soir. Tout autre climat de salles de ambiance.
Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.